Et savoir, on en jase. 100% parler tout l'été.
100% parler tout l'été avec vous. C'est le retour avec Audrey Pinchot, Véro Bergeron et Antonine Iaccarini qui suit. Oui, on sera de retour demain matin aussi dans Marceau le matin avec Max Larouche, Yannick Marceau et moi-même, Jeff Fortin, Pascal CV pour l'émission On en jase de midi à 14h et de 10h à midi, c'est Max Larouche avec Mathias Turcotte. Météo, 30 degrés. Risque d'orage en fin d'après-midi. Demain, 27 degrés, 40% de possibilité d'averse. Et après ça, on part sur le gros soleil. 25, 27 et 28 pour vendredi, samedi et dimanche. Pascal, avant qu'on passe à Lanny Dufour, chroniqueuse économique pour nous et directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication, rappelle-nous de la circulation en premier.
Sur Dufresne Montmorency ouest à la sortie pour le boulevard Charest, la sortie 21, bien c'est barré. Il y a un bris d'aqueduc qui vient de se produire, Jeff, dans les dernières minutes. Alors, ça risque de se remplir, ça ralentit le secteur, on ne peut pas passer, je rappelle. Dufresne Montmorency ouest, sortie pour le boulevard Charest, la sortie 21, c'est barré. On ne peut juste pas passer.
Excellent. Merci beaucoup. Soyez prudents sur la route. Ouais, gros dossier pour Hydro-Québec qui pourrait se régler en fin de semaine avec une communauté inue de Pessamite sur la côte nord. Résume-nous cette nouvelle-là.
Oui, le gouvernement Fréchette et Hydro-Québec sont sur le point de s'entendre sur un accord. Là, ça chiffre en milliards de dollars avec la communauté Innu de Pessamite, tu l'as dit. Et c'est la presse qui rapportait que ça viendrait régler des litiges historiques. Et ça ouvrirait la voie aussi à de nouveaux projets, dont une centrale hydroélectrique sur la côte nord. On a obtenu une copie du côté de Radio-Canada du document qui est intitulé « Entente de nouvelles relations concernant le développement énergétique » qui détaille les montants qui seraient versés à Pessamite en guise de compensation pour les projets passés qui n'ont pas obtenu leur consentement. Alors, Hydro-Québec, c'est d'énormes sommes, là, pourrait verser des compensations totalisant 992 millions de dollars sur 50 ans. Québec s'engage à verser près de 632 millions de dollars sur 10 ans pour régler ces litiges-là. Écoute, ça traîne depuis les années 1950. C'est énorme comme dossier.
Et pour en parler avec nous, on a Lanny Dufour, directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. Lanny, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien, vous?
Ça va super bien. Lanny, à quel point c'est gros et important ce projet-là pour Hydro-Québec?
C'est vraiment une grosse entente, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est historique? Je ne sais pas si on pourrait parler d'historique, mais assurément, si on s'entend, parce que là, il faut comprendre que c'est pas encore réglé. Là, on a des discussions, puis ce qu'on me disait ce matin même, c'est qu'il y a encore des choses qui changent là, dans les textes. Donc, on est vraiment en négociation. Ça l'a fuité avant parce qu'on sait tous que parfois, c'est des stratégies qu'on a politiques derrière de le faire savoir, mais on travaillerait dans la bonne voie pour s'assurer que, justement, on soit capable de convenir de cette entente-là parce que, justement, vous l'avez dit, il y a historiquement des enjeux parce que on faisait aller les dossiers aux tribunaux là en tout ce qui a trait à justement la communauté Pessamite. On poursuivait le gouvernement parce que on n'avait pas eu depuis la création des barrages la redevance nécessaire selon eux. Donc là, on viendrait vraiment mettre ça sous une entente et on s'assurait que soit il y a une redevance financière ou même qu'ils prennent part à la propriété là, du barrage qui serait créé. Puis, ce qui m'amène à vous dire que au-delà de l'entente avec les Premières Nations, c'est vraiment en termes de puissance qu'il faut voir ça gros, parce que ça équivaut là, en termes de puissance installée, donc la capacité, à deux fois Manic 5.
C'est
très gros quand on parle d'avoir besoin d'énergie au Québec pour des projets, pour la décarbonation, bien, c'est là où est-ce que, justement, on viendrait créer vraiment plus de mégawatts là, sur le réseau.
Lanny, on dit toujours qu'il faut avoir une première entente avant que le reste déboule. Il faut avoir ce fameux, là, je vais prendre le terme anglais, là, fameux kicker qui nous permet après ça d'avancer rapidement. Est-ce que si on réussit à s'entendre avec cette communauté Innu, tu crois que ça va donner le ton pour les autres projets d'Hydro-Québec?
Ça peut donner le ton parce qu'en ce moment, il y a quand même aussi des ententes ou des discussions, notamment avec les projets éoliens, avec différentes communautés. Je pense que si celle-là va bien, ben ça peut donner effectivement envie aux autres de s'entendre parce que ben on veut que ce soit un partenariat qui est gagnant-gagnant. On entend souvent cette fameuse ligne-là, mais si c'est le cas, je pense que ça pourra assurément aider. Moi, ce qu'on me dit, c'est que la volonté est là. C'était une priorité, puis c'est pas pour rien qu'on a Yann Lafrenière qui s'occupe justement des affaires autochtones, qui est aussi vice-premier ministre. Parce que, justement, c'est une priorité qui est aussi à la sécurité intérieure. Là. Mais c'est une priorité qu'on voulait donner de s'entendre avec les Premières Nations puis de peut-être s'assurer que ça aille mieux dans le futur. Parce que, peu importe ce qu'on va faire, si on veut créer, justement, là, on parle d'un nouveau barrage, ben il faut de facto s'entendre avec eux. Oui. Même chose avec l'éolien, même chose avec la majorité maintenant des projets qu'on fait en acceptabilité sociale. On doit inclure les Premières Nations dans les ententes. Fait que si on veut que ça aide, ben il faut réussir aussi à leur donner, je dirais, qu'est-ce qu'eux ont envie, puis de les faire prendre part à la discussion, parce que, tu sais, on dit souvent que c'est plus long ou que c'est complexe, mais c'est parce que, justement, ils n'ont pas les mêmes instances que nous. Comme là, on va avoir dimanche un référendum pour, justement, voir si on va de l'avant ou pas. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de choses que nous, on fait nécessairement, aller en référendum. Il y en a quelques fois, mais quand même, c'est une façon de faire qui est différente. Puis, ben souvent, quand on fait des ententes comme ça, multipartites, là, parce que ça peut arriver aussi quand tu inclus les municipalités là-dedans, choses qui sont souvent partie prenante aussi, ben ça rajoute du temps, des délais. Mais une fois qu'on s'entend, par exemple, là, c'est supposé, c'est ce que tout le monde espère, vraiment tenir puis être pérenne dans le temps.
Il y a quelque chose de super intéressant, c'est que ben, je pense qu'il y a des histoires qui ne sont pas les mêmes dans plein de dossiers. Quand je suis allée au Nunavik, Lani, Jeff, il y a cette consultation, ce conseil de bande qui se produisait. Okay, j'ai été chanceuse, j'ai passé une journée là, puis j'ai vu un peu la dynamique, puis tu avais bon, ceux qui parlaient, donc la communauté Inuit qui était là, et il y avait des experts même de l'Université Laval et tout ça, puis eux, le débat, c'était sur une mine, okay, qui allait être implantée au Nunavik, qui était sur un territoire qui était partagé par le gouvernement et la communauté. Puis j'ai, pour vrai, constaté que tout le monde voulait trouver un terrain d'entente. Puis c'est rare qu'on voyait ça. Autant la communauté se disait encline à avancer, mais il fallait protéger leurs caribous, leur territoire de pêche puis de chasse, parce que eux, c'est la seule façon de s'alimenter. Quand il n'y a pas de denrées qui montent dans le nord, ben, ou encore que les prix sont faramineux, si vous pensez que l'épicerie coûte cher ici, imaginez là-bas, ben c'est juste une insécurité alimentaire. Puis de l'autre côté, ils comprenaient qu'il faut se développer. Fait que tout ce qu'a apporté le gouvernement en termes d'incitatifs économiques, puis on va essayer de vous faire travailler aussi à travers... C'est ça qui était débattu. Moi, je pense qu'il y a eu trop souvent d'histoires où on a mis de l'avant à quel point il n'y avait pas de concessions qui se faisaient de part et d'autre, puis ça a créé énormément d'effets boule de neige. Si cette fois-ci, on est capable d'avoir des consultations qui finissent en bons termes, qu'on est capable de se parler puis de mettre un petit peu à profit la nouvelle façon de faire la politique. Hey, les projets d'infrastructure pour le futur, là, dans le Nord, dans les communautés, puis c'est énorme, non, pour notre économie. On parle de retombées de 7 milliards de dollars là, cette fois-ci, par ce que promet le Conseil de bande.
Non, c'est sûr que c'est énorme. Puis quand on regarde, justement, comme tu dis, le fait de... Ce que je comprends, c'est qu'il y a personne qui a une mauvaise foi. Puis oui, parfois, on comprend des choses différemment parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, mais c'est pas ça. Du tout, encore plus, là, ta situation dans le Grand Nord. Mais si tout le monde met sa contribution puis réussit à mettre de l'eau dans son vin pour vraiment s'entendre pour le bien commun, justement, de faire une entente qui aurait des retombées massif. Puis comme je vous dis, là, en ce moment, des projets au Québec, il y en a des milliards qui sont en attente parce qu'on n'a pas les mégawatts. Puis ça inclut aussi des projets, justement, où est-ce qu'il y a des Premières Nations qui prennent part, que ce soit minier ou que ce soit justement des projets éoliens. Tout ce qui prend 5 mégawatts et plus, de toute façon, tu dois aller justement en autorisation par Hydro-Québec. Puis en ce moment, c'est très long, c'est bloqué. Puis c'est pas tout le monde qui peut réussir à les avoir parce que justement, on en manque. Et ben Hydro-Québec, si ils veulent réussir leur plan 2035 d'ajouter de 800 000 à 9 000 mégawatts, ben ça va prendre une façon de faire comme ça, tu sais, que ce soit un barrage, que ce soit d'être plus efficace, parce qu'il y a ça aussi, mais tu sais, on parle de plusieurs milliers, là, donc ça se fait pas non plus juste en efficacité énergétique. Là, il faut être capable d'en produire plus. Puis justement, tu sais, tous nos grands plans de décarbonation, que ce soit les véhicules, que ce soit les industries, justement, qui vont avoir une demande en hydroélectricité beaucoup plus grande, mm-hmm. ben ça vient avec aussi, tu sais. Puis là, on n'entre pas dans les centres de données qui demandent aussi énormément de mégawatts. Fait que tout ça pour dire que oui, parfois c'est plus long, mais si on réussit vraiment à s'entendre, même chose avec Churchill Falls, ben on va réussir à créer beaucoup plus d'électricité pour le Québec. Puis ça reste que de longtemps, ça a fait partie d'un avantage concurrentiel économique. Puis si on perd ça, ben je me demande si on n'est pas aussi en train de manquer de leadership ou de vision.
Je suis tellement d'accord avec toi, Lani Dufault. Je te souhaite un bon restant de vacances en France.
Merci. Je vais écouter demain mon premier match de soccer avec la France contre le Maroc. Fait que je vais vivre la vraie ambiance de la Coupe du monde.
Écris-moi, envoie-moi une vidéo de ça pour qu'on puisse en jaser en ondes.
Parfait,
ça me fait
plaisir.
Excellent. Salut, Lani. Merci beaucoup.
Salut, bonne journée.
Lani Dufour, directrice adjointe aux affaires gouvernementales pour Catapulte Communication. On va suivre ça pour vous dimanche, référendum dans la communauté Inupiaçamite au niveau de la Côte-Nord. Pascal Cévé, je te souhaite un excellent après-midi.
À toi aussi, merci beaucoup.
Merci à toi. Le retour suit à l'instant même avec Audrey Véro et Antonine. Ne manquez